Europe 1, le 22-22-30, Théo Manval.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos. Il est 22h. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1.
On est en train d'essayer de remonter également l'histoire professionnelle, personnelle, pour essayer de comprendre effectivement ces passages-là qui, a priori, ne relèvent pas d'une logique particulière, sauf le lien peut-être avec l'emploi.
L'homme qui a tué ce matin une conseillère Pôle emploi et la DRH de l'un de ses anciens employeurs est-il lié à un autre meurtre d'une autre DRH il y a deux jours? Les enquêteurs de Valence et Colmar relèvent des similitudes dans les deux drames. On fait le point dès le début de ce journal. Quelles seront les mesures prises une nouvelle fois pour tenter de contenir l'épidémie? Elles seront débattues au Parlement la semaine prochaine avec un vote consultatif. Alors que la question se pose de laisser ouvertes ou non les écoles, à Calais, un cluster menace dans un collège. Dans ce journal également, l'IGPN saisie après le pot de départ sans masque et en plein couvre-feu dans un commissariat d'Aubervilliers. Le jargon administratif tellement hermétique en France qu'une plateforme vient d'être lancé pour nous aider à le traduire. Et puis l'arrivée du sauveteur Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Il termine quatrième. Corinne Boulou nous attend en ligne des Sables d'Olonne à la fin du journal. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Huawei lancera sa première usine hors de Chine en Alsace. Jacques Biot, président du conseil d'administration de Huawei, vient nous donner les raisons de ce choix français. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo. Doux mais agité pour demain, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc la question qui occupe les enquêteurs ce soir. Après le double assassinat commis ce matin près de Valence, l'homme qui a tué son ancienne DRH et une conseillère Pôle emploi est-il aussi l'auteur d'un troisième assassinat commis avant-hier à des centaines de kilomètres de là, Jean-Luc Boujon?
Oui, celui d'une autre DRH retrouvée tuée par balle dans sa voiture mardi près de Colmar en Alsace. Ce qui trouble les enquêteurs, c'est le lieu de ce meurtre, l'est de la France, d'où est précisément originaire le tueur de Valence, mais aussi la présence remarquée d'une voiture japonaise de location rouge, le même modèle que celui utilisé ce matin à Valence, des éléments qui font que les enquêteurs de Colmar et de Valence se sont pas mal parlé ces dernières heures. Alors à Pôle emploi ce matin, il semble qu'il n'ait pas spécifiquement visé la conseillère, il a fait feu sur elle parce qu'elle était présente à l'accueil. En revanche, ça semble différent dans l'entreprise Faune Environnement dans laquelle il s'est rendu dans un second temps. D'abord, il y a travaillé entre 2008 et 2010 et l'équipe de direction, DRH y compris, était déjà là lors de son passage. Il connaissait donc cette mère de famille de 51 ans sur qui il a fait feu. Peut-être parce qu'il avait été licencié de cette entreprise, même si pour l'instant on n'en a pas la confirmation. Les enquêteurs tentent actuellement de retracer son parcours, explique le procureur de Valence, Alex Perrin.
On est en train de remonter l'histoire de cette personne, histoire professionnelle, personnelle, pour essayer de comprendre ces passages-là, qui a priori ne relèvent pas d'une logique particulière, sauf le lien peut-être avec l'emploi, mais sans qu'on sache véritablement lequel.
Voilà, alors ce qu'on sait quand même, c'est que l'homme âgé de 45 ans était un ingénieur sans activité depuis plusieurs mois, et visiblement aguerri au tir sportif. Il est en garde à vue alors qu'il est.
Jean-Luc Boujon, envoyé spécial d'Europe 1 à Valence dans la Drôme, et l'ensemble des agences Pôle emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes resteront fermées. Demain, les agents observeront une minute de silence. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place cet après-midi. Alors que le gouvernement promet ce soir au volet sanitaire que 2,5 millions de Français auront reçu au moins une dose de vaccin d'ici fin février, le ministre de la Santé a détaillé les derniers chiffres de la situation sanitaire cet après-midi avant l'annonce de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie attendue dans les jours qui viennent. Le virus continue de progresser lentement, mais à un rythme régulier et qui pourrait s'accélérer, dit Olivier Véran, avec la prolifération des variants.
Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien. Ces variants, je les considère un peu comme des nouveaux virus, appelant de nouvelles mesures pour nous protéger. Les Français font preuve depuis près d'un an d'un remarquable esprit de solidarité et de responsabilité. Nous devons tenir encore.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui semble, on l'entend, préparer les esprits à un nouveau reconfinement. On attend le verdict des choix de l'exécutif en début de semaine prochaine. Mais cette fois-ci, ces nouvelles mesures seront débattues au Parlement. C'est ce qui est ressorti des consultations entre le Premier ministre Jean Castex et les présidents de groupes parlementaires reçus cet après-midi à Matignon. Jean-Rémy Baudeau, vous avez suivi ces échanges. Quelle a été la tonalité ?
Eh bien, officiellement, ces discussions sont organisées pour créer du dialogue et du consensus. Mais parmi les participants aujourd'hui, personne n'a eu de doute. L'exécutif travaille bien à un nouveau confinement. Ce n'est qu'une question de jours. Ce soir, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a loué le dialogue avec les élus. Depuis Matignon, il a fait état d'un consensus pour des mesures supplémentaires. Fin de citation. Ce qu'on retiendra des échanges aujourd'hui, c'est que les présidents de groupe ont obtenu du Premier ministre Jean Castex un débat puis un vote au Parlement avant une possible entrée en vigueur d'un confinement. Un vote encadré par l'article 50-1 de la Constitution, vote donc purement consultatif qui interviendrait selon toute vraisemblance en début de semaine. Et voilà que petit à petit on comprend comment la séquence politique de ces prochains jours va s'organiser. Avec un probable conseil de défense ce week-end, une prise de décision par l'Élysée, une annonce, un débat au Parlement, puis une mise en application de nouvelles restrictions la semaine prochaine. Ce qu'on ignore encore, sont évidemment jusqu'où ces restrictions iront, quid des écoles surtout. Aujourd'hui encore, les ministres ont continué d'abreuver l'Élysée de notes et de propositions. Les dernières enquêtes sur les chiffres du Covid seront, elles, connues ce week-end. Une ministre me confie aujourd'hui « Tous nos choix auront des inconvénients ». C'est vraiment un exercice d'équilibriste.
Et l'une des questions, vous le savez, concerne la fermeture ou non des écoles, le regroupement pendant 3 semaines des vacances scolaires des différentes zones. Alors qu'à Calais, on redoute justement l'apparition d'un cluster dans un collège. 44 personnes testées positives, un dépistage massif y a commencé aujourd'hui. Lionel Gougelot était sur place.
Une élève sort de la salle de dépistage en se frottant le nez avec une petite grimace. L'adolescente fait partie des quelques 90 collégiens qui ont subi un test PCR aujourd'hui. Dépistage général pour les enseignants et les 447 collégiens, mais facultatif et sur autorisation express des parents. Jérôme Gué, le principal du collège.
On essaie de rassurer le maximum de familles, le maximum de personnel, afin que la vie continue au sein du collège Martin Luther King. L'idée, c'est de casser la chaîne de transmission du virus, que nos élèves continuent à travailler en toute sérénité.
Depuis le début du mois, il a fallu fermer ici successivement 4 classes, 25 élèves et 6 enseignants sont toujours placés à l'isolement. Une situation qui forcément inquiète certains parents d'élèves.
Vous savez, tous les semaines on reçoit des emails en disant qu'il y a toujours des cas. Alors vous croyez que c'est rassurant vous?
Il faudrait fermer cette école, je sais pas, faire quelque chose.
Et la santé avant tout, les cours on peut les rattraper après.
Mais pour Emmanuel, la fermeture de l'établissement serait une solution bien trop radicale et préjudiciable pour les collégiens.
Il vaut mieux qu'ils soient absents 7 jours si un cluster se développe dans une classe plutôt que de les refermer sur plusieurs semaines où la scolarité est mise en pause puisque à la maison forcément le travail il n'est pas fourni de la même façon.
Avec pour conséquence le risque d'un décrochage scolaire pour beaucoup d'adolescents de ce quartier populaire. Calais, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et un dernier mot concernant les vaccins. La Commission européenne ordonne une inspection dans l'usine de production en Belgique du laboratoire AstraZeneca qui a annoncé des retards. AstraZeneca qui doit aussi défendre aujourd'hui l'efficacité de son vaccin chez les plus de 65 ans. Efficacité mise en doute par les autorités allemandes alors que le vaccin doit être autorisé en Europe dans les jours qui viennent.
Europe 1, le 22-22-30, Théo Manval.
22h passées de 8 minutes sur Europe 1. Une 10e personne en garde à vue ce soir après l'agression du jeune Youri. 10 personnes dont 9 mineurs soupçonnés de tentatives d'assassinat et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Alors que l'IGPN va, elle, se pencher sur le cas de ses agents d'un commissariat d'Aubervilliers près de Paris qu'on a pu voir en vidéo célébrer un pot de départ sans masque et en dansant la Macarena. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect du couvre-feu, Marion Dubreuil.
Oui, car depuis la crise sanitaire, les consignes sont claires. Les pots sont interdits dans les commissariats, sauf que la semaine dernière, la commissaire d'Aubervilliers a autorisé un écart pour marquer le coup avant le départ d'une lieutenante, dans le respect des gestes barrières, en petit comité. Mais la soirée s'est prolongée à 30 jusqu'à 3 heures du matin, sans masque ni distanciation physique. Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, plaide pour un simple rappel des consignes.
Bien sûr que c'est une bêtise que de s'être réunis, alors qu'on est en pleine crise sanitaire et que nous, policiers, nous sommes comme tout citoyen, on n'est pas à l'abri de transmettre le virus à tous les collègues. Mais ce pot de départ ne s'effectuait pas dans un espace public, c'est dans une salle de repos.
Ce soir, c'est également le parquet de Bobigny qui s'est emparé de l'affaire et qui ouvre une enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, d'une part pour mise en danger de la vie d'autrui, et puis non-respect du couvre-feu, car comme nous l'explique une source judiciaire, s'il est autorisé de quitter son travail après 18 heures, encore faut-il pouvoir justifier que c'était pour des raisons professionnelles.
En effet, Marion Dubreuil.
Breuil du service police-justice d'Europe 1. Et dans les commissariats ou au guichet d'autres administrations, vous avez peut-être été vous aussi confronté un jour à l'un de ces documents officiels difficilement décryptables à cause du jargon administratif dont de nombreux services ont le secret. Eh bien, figurez-vous qu'une plateforme a été lancée aujourd'hui, Service Public Plus au pluriel, pour nous permettre de signaler ces formulations trop obscures afin de les faire corriger. Hélène Terzian, il n'y a aucun doute, ça va servir.
Oui, tenez, Théo par exemple, que comprenez-vous si l'URSSAF vous envoyait cette lettre ?
J'ai remis vos bordereaux comme à l'initiale, mais vous devez refaire le bloc de régularisation en renseignant le montant de l'assiette qui correspond à la cotisation qui reste pour le moment en débit.
Pas grand-chose, et bien Christophe non plus.
C'est une grande phrase, avec peu de ponctuation, donc c'est compliqué, il faut couper l'éléphant en morceaux pour arriver à le digérer. Donc ça serait utile effectivement d'avoir une plateforme qui puisse permettre d'avoir un éclairage supplémentaire.
En vous aidant à décrypter ce type de document administratif un peu trop compliqué, Sarah pourrait par exemple soumettre une feuille de soins de la Sécu pour y voir plus clair.
En fait, il y a juste une liste de montants. Je ne sais pas dans les trois cases lequel est remboursé, lequel est la base de remboursement, lequel doit être payé. Enfin, voilà, on ne prend rien, quoi.
Il y a aussi des conseils pour éviter des erreurs dans vos démarches pour la retraite, en cas de déménagement. Un éclairage aussi sur les nombreux acronymes. Un coup de pouce plus que bienvenu pour Nella.
Bon, dans tous les documents des impôts, vous voyez partout RAS.
RAS, c'est rien à signaler plutôt, oui.
Au bout d'un moment, vous finissez par comprendre en recoupant, mais bon, c'était pas naturel retenu à la source RAS.
Dans le contexte de la pandémie, les questions liées aux démarches en matière de santé devraient particulièrement être examinées.
Un reportage tout à fait limpide, merci Hélène Terzian. En bref, à l'étranger, une fuite d'azote liquide dans une usine agroalimentaire a fait 6 morts et une dizaine de blessés ce soir près d'Atlanta aux États-Unis. Il n'y a pas eu d'explosion, les enquêteurs recherchent encore l'origine de cette fuite. La politique et l'ex-adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard, exclu du groupe Paris en commun d'Anne Hidalgo, lui qui avait été visé par une enquête pour viol classée sans suite pour prescription. Il dénonce un piétinement du droit par les équipes municipales. Il ne démissionnera pas de son mandat d'élu du 18e arrondissement.
Europe Soir, le 22-22-30, Théo Manval.
Et c'était l'événement culturel du jour. Un tableau du maître de la Renaissance italienne Botticelli, mis aux enchères à New York. Ce portrait d'un jeune homme tenant un médaillon était estimé à 80 millions de dollars. Diane Chenouda, il est parti pour 12 de plus, presque un record.
Ladies and gentlemen, we now move on to the star of the sale, Sandro Botticelli's masterpiece.
Oui, c'était le clou, la star de cette vente chez Sotheby's, ce chef-d'œuvre de Botticelli, comme le souligne le commissaire-priseur au début des enchères. Portrait d'un jeune homme aux cheveux longs qui tient dans ses mains un petit tableau comme une icône, joyau de la Renaissance, datant de 1480, parfaitement conservé, estimé à 80 millions de dollars. Les enchères ont démarré à 70 millions et le tableau a finalement été adjugé 80 millions.
For $80 million. Thank you, ladies and gentlemen. We can now safely say that the Botticelli is the most valuable old master painting ever sold in a Sotheby's auction.
Avec les frais, ce Botticelli est parti à plus de 92 millions de dollars, soit plus de 76 millions d'euros. Vous l'avez dit, c'est considérable, mais on est loin du record détenu par le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vendu il y a 3 ans à 450 millions de dollars. Mais ce Botticelli devient quand même le deuxième tableau ancien le plus cher au monde après le Salvator Mundi, record jusque-là détenu par le Massacre des Innocents de Rubens. On ne sait pas encore qui l'a acheté, mais je peux vous dire que le milliardaire américain qui vient de vendre son Botticelli a fait une affaire, car il y a presque 40 ans, il ne l'avait acheté, si j'ose dire, $1,300,000.
Une belle plus-value, effectivement. Merci à vous, Diane Chenouda. Enfin, lui est l'un des maîtres des courses à la voile. On le surnomme même le roi Jean. Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe il y a un peu plus d'une heure et demie. Le sauveteur de Kevin Escoffier se classe finalement 4e au jeu des récupérations de temps. Et visiblement, Corinne Boulou, vous êtes au Sable d'Olonne pour Europe 1. Il avait hâte d'en terminer. Hein.
Oui, en effet, c'est dans des conditions tempétueuses, dans une mer creusée, que Jean Le Cam a bouclé son tour du monde. Un 5e Vendée Globe qu'il aura vu se hisser en tête de flotte en début de course et surtout héroïque lors du sauvetage de Kevin Escoffier dans les 40e rugissants. Alors vous allez l'entendre lorsque le PC course l'a joint tout à l'heure à bord de son monocoque, une fois la ligne franchie au large des sables. Jean Le Cam était plus que soulagé d'en avoir fini et mystérieux sur l'état de son bateau.
Voilà, c'est fait quoi. C'est passé la ligne, celle-là, je peux vous dire que c'est une ligne d'arrivée que j'ai jamais coupée, jamais. Pourquoi ? Bah ça, vous verrez demain pourquoi. Je sais pas comment je suis arrivé là. Honnêtement, je sais pas. Oh, bah c'est une délivrance certainement. Ça, c'est sûr. ça y est, c'est fait, quoi. C'est un truc de... Je m'en déglobe, ça a été pour moi un truc de malade, quoi. J'en ai fait, hein. Mais alors, avec tout ce qui s'est passé, machin, etc. Et en plus, apparemment, je fais quatrième.
Magnifique performance du rock breton de 61 ans, qui fut même sur le podium du Vendée Globe, deuxième en 2005. Jean Le Cam est actuellement à bord de son voilier avec son équipe, en attendant que la marée lui permette, vers 2h du matin, de rejoindre le ponton d'honneur, qui a accueilli 7 bateaux depuis hier soir. Unique dans l'histoire de la course, unique Jean Le Cam qui tient une place à part dans le cœur des Sablais.
Merci beaucoup Corinne Boulou qui nous a fait vivre depuis ce matin ses arrivées depuis les Sables d'Olonne pour Europe 1. 22h15, la météo. Avec vous Anissa Haddadi, 13 départements en vigilance orange pour vent violent, inondation et risque d'avalanche. Le Pas-de-Calais vient de s'ajouter à cette longue bande est de la Meurthe-et-Moselle à la Corse en passant par les Hautes-Alpes. On l'a compris Anissa, la journée sera encore agitée demain.
Oui, avec toujours de fortes pluies Théo, demain à l'est en particulier sur les Alpes où le vent va souffler très fort, plus de 100 km/h sur les reliefs. Le risque d'avalanche est toujours très important dans ce secteur. Sur la moitié nord du pays et en particulier de la Bretagne à l'Alsace, les averses sont nombreuses demain matin. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec et ensoleillé. Toujours la tramontane qui se renforce demain dans l'après-midi. Et puis en Corse, le temps est très très agité avec... du vent tempétueux jusqu'à 140 km/h sur l'île de Beauté. Dans l'après-midi, le ciel se dégage à l'ouest avec le retour des éclaircies du Cotentin jusqu'à la Gironde. Dans le Pays Basque, il pleut toute la journée. Et puis le vent d'ouest souffle fort sur tout le pays demain jusqu'à 70 km/h en ville, 100 km/h en rafale sur les côtes demain. La douceur se maintient côté température avec 6 à 12 degrés le matin. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 8 à 13 degrés sur la moitié nord avec 12 degrés sur Paris et 12 à 16 degrés dans le sud jusqu'à 21 au bord de la Méditerranée.
Prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières juste avant l'interview Echo et l'Alsace qui accueillera la première usine Huawei hors de Chine. A tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
À 22h19, on fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Wall Street retrouve le moral après avoir encaissé hier sa pire chute depuis 3 mois.
Oui, les indices ont chuté hier, inquiets de la pandémie et de son impact sur l'économie. Ça va mieux ce soir. Le Dow Jones reprend 1%, 30 603 points. Et le Nasdaq gagne 0,5%, 13 337 points. Au menu ce soir, les derniers résultats d'entreprise sont mitigés. Excellente performance pour Apple, qui continue de profiter de la crise sanitaire, mais le titre chute de 3,5%. En fait, les investisseurs prennent leurs profits après la récente envolée du titre. C'est le même scénario pour Facebook, en repli de 2,7%. Et puis Tesla perd 3,4%. Mais là, c'est aussi à cause d'une petite déception sur les comptes du constructeur de voitures.
Rien de bien méchant. À Paris, le CAC 40 a clôturé dans le vert, mais les investisseurs sont restés nerveux aujourd'hui.
Oui, beaucoup de volatilité à Paris après un mauvais départ, le CAC 40 est remonté grâce à Wall Street et il reprend 0,93%, 5 510 points. ST Microelectronics domine les hausses sur le CAC avec un gain de 4%. Le fabricant de puces a publié de bons résultats financiers. Ça monte aussi pour Pernod Ricard, plus 3,2%. Le groupe profite des performances solides de son concurrent britannique Diageo avec des ventes d'alcool en forte hausse, notamment aux États-Unis.
Déception à l'inverse, Claire, pour le groupe de restauration collective Elior.
Oui, Elior qui souffre de la crise et de l'essor du télétravail. Son chiffre d'affaires a chuté au premier trimestre et le groupe est assez pessimiste pour les mois à venir. Le titre chute de 11% ce soir. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le vert à l'exception de Londres qui perd 0,6%. Francfort remonte de 0,3%, Milan plus 1,2%, Madrid plus 1% et à Paris, le CAC 40 reprend 0,9%, 5 510 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet. Claire Lemaître de boursier.com. À 22h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview Echo avec vous Emmanuel Duteil et votre invité, l'un des dirigeants du géant chinois des télécoms Huawei. C'est à vous.
Bonsoir Jacques Biot. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du conseil d'administration de Huawei, marque bien connue de téléphone. On vous remercie vraiment d'avoir accepté d'être en ligne avec nous ce soir. Vous avez présenté cette semaine votre usine française. C'est la toute première usine hors de Chine pour Huawei. Vous l'installez dans le Grand Est. Première question toute simple. Pourquoi vous avez choisi la France ?
Alors, c'est la première usine donc, de fabrication de stations de base qui est établie hors de Chine. Pourquoi la France ? Pour de très nombreuses raisons. Cette usine, vraiment le sens stratégique de l'usine, c'est de produire du made in France pour l'Europe. Donc ça résulte d'une considération, j'allais dire, liée à l'économie internationale d'aujourd'hui. Nous souhaitons nous rapprocher à la fois de nos clients européens, qui sont fort nombreux, de nos fournisseurs européens et également de toute la communauté académique, scientifique, industrielle, européenne, et donc vraiment être présent au cœur de ce grand marché qu'est l'Europe.
Alors beaucoup de nos auditeurs ne savent sûrement pas ce que ce sont des stations de base. De façon concrète, vous allez fabriquer quoi dans cette usine et ça va servir à quoi ?
Donc les stations de base, c'est l'équipement qui permet à votre téléphone d'entrer en communication avec le réseau. Donc c'est ce qui établit à tout instant entre votre mobile et le réseau un lien qui vous permet d'être complètement relié au monde. Ça couvre toutes les générations, je le précise, parce que vous savez que toutes les générations sont regroupées dans ces stations.
Quand vous dites génération, c'est par exemple 5G qu'on est en train de déployer aujourd'hui en France.
C'est de la 5G, mais c'est aussi de la 4G, de la 3G, de façon à ce que les personnes qui ont des téléphones de génération plus ancienne ne soient pas coupées du monde et continuent bien sûr à avoir un complet accès au réseau dans les conditions qui sont les leurs.
Bien évidemment. Et combien d'emplois à terme comptez-vous créer là sur le sol français ?
Donc dans l'INI, il y a 300 et puis dans une étape ultérieure, 500.
Donc 500 emplois qui vont être créés. Vous le dites, vous voulez vous rapprocher de vos clients, notamment de vos clients européens. Malgré tout, il y a beaucoup de pays en Europe, on peut citer l'Allemagne, qui ne veulent pas travailler avec Huawei. À qui allez-vous vraiment vendre ?
Oh non, Huawei travaille avec la quasi-totalité des pays d'Europe. Dans le monde, nous sommes présents dans 170 pays. En France, nous sommes présents depuis 2003, depuis 17 ans, et en Europe depuis, je crois, plus de 20 ans. Donc Huawei est extrêmement présent et le marché européen reste un marché extrêmement attractif et qui va continuer à se développer.
Malgré tout, en France aussi, le gouvernement a demandé aux opérateurs de ne pas travailler avec Huawei. Est-ce que le fait d'installer une usine, c'est aussi un moyen pour vous d'installer un rapport de force ? C'est-à-dire de dire, voilà, nous on a une usine, on a créé 500 emplois, travaillez avec nous.
Non, pas du tout, ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est vraiment un esprit de long terme, si vous voulez. C'est que Huawei croit en la France. Je crois que le groupe a été convaincu par les équipes françaises qui se sont beaucoup mobilisées pour convaincre le groupe. Et le groupe s'est laissé convaincre, je crois, très, très bien parce que la France a des atouts considérables, que la France était une terre d'accueil excellente pour une usine qui travaillera pour l'Europe.
Répondez notamment au gouvernement français qui dit régulièrement « Non, les opérateurs, vous ne pouvez pas travailler avec Huawei ». Disons-le clairement, parce qu'il y a une suspicion que Huawei puisse potentiellement nous écouter. Huawei, c'est une entreprise chinoise gigantesque. Le président fondateur est un ancien de l'armée populaire de Chine que l'on présente comme très proche du pouvoir chinois. Personne n'a pu vérifier ces inquiétudes, mais elles sont là.
Non, mais la plupart des grands patrons français sont aussi d'anciens militaires. Tous ceux qui sont passés par l'école polytechnique sont d'anciens militaires.
Que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même l'ancien patron de l'école polytechnique.
Voilà, et donc, si vous voulez, je crois qu'on est en France, je l'ai dit, depuis 2003. Et donc, il y a vraiment, toutes ces insinuations nous font sourire. Mais sur le fond, nous savons très bien que le marché européen souhaitera maintenir une diversité de l'offre. On le voit, si vous voulez, avec les vaccins. En ce moment, il y a tout ce débat autour de la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et on voit bien que le continent européen ne va pas se placer dans les mains d'un duopole. Donc, c'est l'intérêt de l'Europe de maintenir, et la plupart des pays européens l'ont compris, et la France fait partie de cela, d'ailleurs. Donc, nous aurons une part de marché, nous avons une part de marché, nous maintiendrons une part de marché et le marché européen reste un marché très important pour Huawei.
C'est vrai, et là il faut le reconnaître, hein, les fournisseurs téléphoniques le disent, que vous avez une avance technologique qu'on estime généralement aux alentours de 18 mois, ce qui veut dire des années-lumière dans le monde de la haute technologie que vous représentez. Malgré tout, il y a une campagne mondiale anti-Huawei et notamment en France. Est-ce que ça pèse sur vos ventes de téléphones portables en France ?
La grande force de Huawei, si vous voulez, c'est la confiance et l'appréciation de ses clients, la confiance de ses fournisseurs. Et donc, c'est une entreprise qui est inscrite dans le long terme. C'est une entreprise qui a connu des difficultés dans le passé et qui les a toujours surmontées et qui a toujours même, j'allais dire, fait bon usage de ces difficultés pour améliorer encore sa performance. Et donc, nous sommes extrêmement confiants et extrêmement présents. très bien accueillis hein, dans l'Est. Et je voudrais souligner à cette occasion le professionnalisme.
Bien accueillis, mais est-ce que malgré tout, vos ventes ne souffrent pas, puisqu'on sait que certains de vos modèles peuvent avoir des difficultés, par exemple, à voir les applications américaines. On peut citer Google. C'est quand même compliqué, du coup, pour vous.
Si vous voulez, je crois qu'il faut bien voir que nous sommes inscrits dans le long terme. Donc, sur ce versant-là, nous avons les solutions, hein, qui sont notamment toutes ce qu'on appelle le dispositif HMS, hein, qui est un équivalent de Google en mieux, mais que nous avons développé et qui va permettre à tous les acquéreurs de mobiles Huawei d'avoir accès à toutes les applications. Aujourd'hui, d'ores et déjà, toutes les applications, y compris les applications officielles, type impôts.gouv et choses comme ça, sont accessibles. Donc, une fois encore, je crois que les difficultés éventuelles nous renforcent et nous permettent de profiter encore davantage du dynamisme du marché européen.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Biot. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Huawei. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Et on vous retrouve dès 13h demain aux côtés d'Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Vous allez nous parler musique avec, comme invité, le patron de Deezer, l'un des leaders du streaming musical en France. À demain. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. Et bah, la une de vos journaux de demain, c'est maintenant tout de suite avec Yannick Bestaven, vainqueur surprise d'un Vendée Globe de légende à la une du Figaro, qui résume la difficulté aussi de ce qui attend le skipper à son retour sur Terre avec ce deuxième titre. Le moral des Français mis à rude épreuve. Le Figaro revient sur ces unités psychiatriques qui voient arriver des patients qui n'avaient jusqu'à présent jamais consulté. Les jeunes et les personnes âgées, nous dit le journal, sont particulièrement touchés. Tesla, Apple, Facebook sont, eux, en état de grâce. Ça, c'est à la une des Échos, comme nous le disait d'ailleurs Claire Lemaître il y a quelques instants. Apple vient de franchir le cap des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels pour la première fois. Facebook affiche une croissance insolente. Visiblement, la crise économique, ce n'est pas vraiment pour tout le monde. En politique, pourquoi Marine Le Pen commence à y croire? Ça, c'est l'analyse à sa une du journal L'Opinion, qui nous dit que la patronne du Rassemblement National présentera demain vendredi une proposition de loi visant à combattre les idéologies islamistes. Un sondage Harris Interactive donne Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude pour le second tour de la présidentielle 2022, 52% contre 48%. La présidente du RN, dit L'Opinion, se voit plus que jamais gagnée en 2022. En première page, L'Humanité revient, elle, sur cette question qui nous inquiète. Pourquoi le Covid reprend le dessus? Pourquoi un troisième confinement semble se rapprocher? En cause, la progression exponentielle des variants et la campagne de vaccination qui prend du retard. La Croix salue, elle, l'audace retrouvée du centre Pompidou qui fermera pour 3 ans de travaux à partir de 2023. Et puis Libération sera tout en BD demain pour saluer le festival de la bande dessinée d'Angoulême qui aurait dû débuter ce vendredi. Il a été reporté à la fin du mois de juin prochain. Une jolie une animalière, un petit peu inquiétante hein, à l'image du climat actuel sur Libération. On y voit une montagne avec des loups, des ours, des vautours affamés. Tout un programme. C'est donc à lire demain dans Libération. Pour l'heure, il est 22h30 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. On est avec vous, Olivier, jusqu'à 1h du matin, 39-21, pour vous appeler.
Exactement, Théo. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure à 23h pour le Flash.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.